99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 12 mai, je vous souhaite la bienvenue à l'émission. Aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question de Paul Saint-Pierre Plamondon et des espions canadiens. Mathieu Bélanger sera avec nous, notre collègue analyste politique qui est également enseignant au Cégep à Terrebonne. On va parler d'étudiants tricheurs avec l'intelligence artificielle. Simon Bourassa sera aussi avec nous, il est porte-parole du CAA Québec. Il sera question du palmarès des pires routes du Québec. Il y en a dans la Naudière, faut dire qu'ils sont en piteux état. Luc Mathieu avec nous, président de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. On va parler de la semaine des infirmières là, qui se déroule jusqu'à samedi. Mais tout d'abord, une rumeur de plus en plus persistante veut que le ministère des Transports et de la Mobilité durable réalise enfin des travaux significatifs sur la route 343, c'est-à-dire la rue Baudry-Nord à Joliette, dont l'état est décrit par le maire Pierre-Luc Bellerose comme étant l'état est carrément lamentable. François Morin a parlé au maire et bien sûr, il croira lorsque la machinerie sera sur place.
Alors, Pierre-Luc Bellerose, on a eu des informations en fin de journée hier comme quoi le ministère des Transports et de la Mobilité durable pourrait effectivement bouger sur la 343 Baudry-Nord. Avez-vous eu des vents de ça?
Oui, il y a des rumeurs qui circulent effectivement à cet effet-là, qui le ministère s'entend d'évaluer des travaux qu'on qualifie de majeurs, mais j'ai pas les détails encore. Donc, de notre côté, on poursuit les démarches puis les pressions parce qu'on veut vraiment qu'il se passe quelque chose de concret là très prochainement, notamment, oui, du côté de Baudry, mais aussi là de la voie fermée sur le pont. Donc, on poursuit nos efforts puis nos démarches tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas quelque chose de tangible là, de confirmer du côté du ministère.
Ce qu'on a comme information, et ça reste à confirmer, j'imagine de votre côté aussi, c'est qu'on parle pas de refaire toute l'assise de la route, mais au moins procéder à un resurfaçage là, plus adéquat.
Ben, je pense que c'est la moindre des choses. Je le répète souvent, là, on a une route qui est dans un état de désuétude avancée. Puis le rapiessage qui a été fait dans les dernières semaines, là, c'était pathétique, c'était vraiment inadéquat. Donc nous, je le répète, on va poursuivre les efforts, les démarches, jusqu'à temps qu'on ait des travaux adéquats qui viennent à tout de moins répondre là, aux problématiques actuelles. Puis par la suite, ça va passer aussi par un réaménagement de cette route-là. Là. Mais s'il y a tout de moins à court terme, on peut avoir un pavage adéquat, mais déjà là, on va avoir un gain parce que ça n'était pas prévu avant 2029 ou 2030. Donc, je pense que les efforts puis les démarches entreprises de notre côté vont avoir porté fruit.
Et parlons-en, tandis qu'on y est, parlons-en du pont Baby. À l'époque, le ministère avait décrété une fermeture partielle du pont parce qu'il y avait une poutre qui menaçait de lâcher, sauf qu'il s'est rien fait depuis ce temps-là.
On est toujours dans le brouillard. Il n'y a pas de prévisibilité, il n'y a pas d'échéancier. On essaie là d'avoir des nouvelles de ce côté-là, mais c'est très difficile la communication avec le ministère d'une part, puis d'autre part, on sent pas non plus vraiment, il n'y a pas de sentiment d'urgence face à ces infrastructures-là qui sont en fin de vie ou qui ont des problématiques au niveau structurel. On l'a vu du côté de Berthierville, je pense que c'est le meilleur exemple. Il y a au moins deux ponts qui sont fermés depuis des années, puis on nous disait en 2015 que le chèque était normal, puis il n'y a toujours pas eu de réalisation. Donc nous, ça nous inquiète, d'autant plus que c'est en plein centre de la ville, que ça dessert pas seulement Joliette, mais le Grand Joliette, puis différentes communautés aussi circonvoisines. Donc, on veut s'assurer là, qu'il y a tout de moins une volonté de la part du ministère, des instances gouvernementales, puis qu'on ait une certaine prévisibilité, parce que pour l'instant, on n'a pas de date, on n'a absolument aucun détail là, sur les intentions du ministère. Puis nous, de notre côté, les gens nous interpellent, nous apostrophent, puis je les comprends, parce que c'est des infrastructures qui sont centrales, là. C'est pas des caprices ou des besoins secondaires, là. C'est vraiment des besoins vraiment importants. Puis nous, ce qu'on demande au gouvernement, d'une part, c'est d'avoir des dates, d'avoir des intentions, est-ce que c'est prévu ou non. Puis par la suite, on va faire les démarches qui s'imposent pour que ça se réalise, parce que ça fait des mois et des années dans certains cas, puis on n'a toujours pas là, de signe de vie du ministère. Donc, on va poursuivre jusqu'à temps qu'il y ait des actions concrètes qui se déroulent sur le territoire.
En terminant, on pourrait pratiquement inciter les gens à participer davantage au sondage du CAA Québec pour les pires routes du Québec, parce que là, le sondage, les résultats publiés aujourd'hui ne font état d'aucune route dans le classement régional sur le territoire de Joliette. Il faudrait récidiver peut-être pour l'année prochaine.
C'est malheureux, ça met en exergue ce que je disais dans les dernières semaines, là. Déjà 31 000 kilomètres sous l'égide du ministère, puis au gouvernement, on ne semble pas comprendre. On nous parle de nouveaux projets, notamment le troisième lien. Je pense qu'avec ce classement-là, il devrait y avoir une conscientisation au niveau de nos instances politiques. Écoutez, là, on voit le classement, on le voit, nous, dans la région, tous les gens qui doivent, là, dans le cadre de leur travail ou au niveau des passe-temps, peu importe, qui utilisent les routes du Québec, on le constate à quel point la situation se dégrade. Donc, avant de penser à des nouveaux projets, se concentrer sur nos infrastructures actuelles qui sont de plus en plus dans un état de désuétude inquiétant dans l'ensemble là, du territoire québécois. Puis dans la Nordière, ben, on fait pas exception. Puis on voit qu'il y a un manque d'investissement aussi là, notable du côté du gouvernement. Donc, il faut poursuivre. Puis j'invite mes collègues, j'invite les citoyens à poursuivre aussi au niveau là, des pressions exercées, appeler le 511, interpeller aussi les candidats, les députés. On va être en élection provinciale cette année. Je pense que c'est un dossier qui est important. Il faut arrêter de trouver des nouveaux moyens de nous taxer comme le péage. Les gens paient suffisamment l'immatriculation, le péage. Nous, dans la MRC, on a refusé d'aller de l'avant avec la taxe sur l'immatriculation. Ce qu'il faut, ça prend un plan de match puis une intention réelle du gouvernement de bien gérer les réseaux routiers qui est dans un état déplorable.
Voilà, c'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. On va poursuivre dans la même veine dans un moment avec le porte-parole du CAA Québec, Simon Bourassa.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam.
C'est ouais, quand ça va bien, ouais, que c'est un de ces matins.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerb à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Votre entreprise est-elle prête pour une cyberattaque? Cela peut coûter très cher. Avec Fleet Info, protégez vos données, vos systèmes et votre entreprise grâce à des solutions de cybersécurité fiables et surveillées. Ne prenez pas de risques. Sécurisez avec Fleet Info, expert TI.
C'est la grande vente à Yoy chez Super C. Puis les prix ont pogné une méchante débarque. Cette semaine, les spéciaux coulent à flot avec les boissons Oasis 960 ml à 1,22. Puis les biscuits Christie format sélectionné sont à 2,22. Sans oublier les cuisses de poulet format écono à 1,95 la livre ou 4,30 le kilo. Puis pas besoin de capoter, il y en a assez pour tout le monde. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 13 mai en magasin en ligne. Détails au superc.ca.
CFNG. Lanaudière PM. Transport.
Oui, pour faire suite à ce dont il était question avant la pause publicitaire avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, il y a le CAA Québec qui dévoile les résultats de son sondage, les pires routes du Québec, à cfng.net. D'ailleurs, vous pouvez consulter le palmarès lanaudois. Et François Morin s'est entretenu avec un des porte-parole du CAA Québec, Simon Bourassa.
Alors, Simon Bourassa du CAA Québec, dévoilement de la consultation pour le moins ludique là, des pires routes du Québec dans un premier temps. Est-ce qu'on a une idée là, du taux de participation? Est-ce que ça a répondu pas mal cette année?
Ça a répondu plus que les années précédentes. Même, on a recueilli plus du double du nombre de votes de l'an dernier. Une des bonnes campagnes. Ça met depuis 2022, donc on parle de 6700 votes sur la plateforme là, au cours du mois où ça s'est passé, la consultation, il y a déjà quelques semaines. Donc, c'est un signe. Normalement, quand il y a un un fort taux de participation pour la campagne Les Perrottes, c'est que les gens sont préoccupés par l'état des infrastructures routières, puis ça c'est le reflet là, d'une saison des nids de poules qui a été particulièrement éreintante pour les automobilistes puis les différents usagers de la route.
Avez-vous des données là-dedans sur le taux de réponse ou non?
Non, on n'a pas les chiffres régionaux par région, mais tu sais, on voit qu'il y a eu une participation quand même assez importante dans toutes les régions du Québec. C'est pas concentré dans une seule région.
Mince consolation, il n'y a aucune route lanaudoise qui se retrouve dans le top 10.
Oui, effectivement. Donc là-dessus, vous pouvez vous féliciter. Je ne veux pas dire que les routes sont plus belles dans l'Anaudière qu'ailleurs au Québec. Ceci dit, il y a des enjeux de nid de poule, il y a des problèmes d'infrastructure routière aussi dans votre région. Mais bon, le système de votation fait en sorte que effectivement, il n'y a pas de route de l'Anaudière qui puisse frayer un chemin jusque dans le gros palmarès provincial.
Puis on regarde les résultats des années antérieures. Il y a une route qui revenait souvent. En fait, c'est la route qui traverse la région. L'autoroute 40, on la voit pas cette année. Par contre, il y a une route là, qui revient, là, le rang double du côté de Saint-Laurentide, qui mm-hmm. se retrouve encore dans le palmarès.
Oui, on la retrouve donc ex-aequo en cinquième position dans notre palmarès. Donc, il faut croire que les correctifs qui ont été apportés ou qui ont été promis n'ont pas eu leur effet. Il y a encore des enjeux sur cette route-là. On espère que les autorités compétentes là, vont entendre ce que les gens de l'Anaudière avaient à dire là-dessus, puis qui ont pris la peine aussi de faire entendre leur voix via le palmarès des Perrottes, puis la campagne qu'on a menée. C'est ça que ça sert en passant. Hein. C'est un genre de défouloir collectif, cette campagne-là. Donc voilà, il y a des nouvelles routes aussi qui ont fait leur apparition dans le palmarès pour l'Anaudière, là, entre autres du côté de Berthierville, à Saint-Barthélemy, la Norêt aussi, là, la grande côte Est qu'on voyait pas nécessairement dans les autres années. Donc faudra que les autorités de ces villes-là et que le gouvernement provincial jette un œil là-dessus.
Bon ben justement, là, je voulais revenir là-dessus. Faut taper sur le clou. C'est quand même un outil de travail pour le CA Québec qui permet justement de faire des représentations.
Ben oui, parce que nous, c'est une de nos missions. Donc de faire pression sur les gouvernements, sur les décideurs, d'ouvrir la conversation. Hein, plutôt, on le fait de manière diligente là, sur les investissements en infrastructures routières. On a rejoint le regroupement pour de meilleures routes au Québec, là, qui est une association des représentants de l'industrie, des experts du domaine, des constructeurs de routes aussi, là, qui vont prendre action au cours des prochaines semaines. Donc, vont se rencontrer. On a l'intention aussi du côté de CA Québec de donner notre liste d'épiceries là, en vue des prochaines élections provinciales. Plusieurs partis qui tenteront de prendre le pouvoir en octobre prochain. Et nous, on a des pistes de solutions aussi là, pour le financement récurrent des infrastructures routières. Nos membres qui ont été consultés sur différents sujets au cours des dernières années et lorsqu'on leur demande s'ils sont ouverts à un moratoire sur la construction de nouvelles infrastructures routières pour qu'on se concentre sur l'entretien de ce qu'on a déjà, sont d'accord. Donc, je pense que tout le monde est d'accord au Québec. On n'a pas l'argent pour rattraper le déficit de maintien d'actifs des routes et pour construire des nouvelles infrastructures routières en même temps. Les coffres ne débordent plus. Donc, faut qu'on ait une discussion collective là-dessus. Puis, ben, cette campagne-là, oui, sert à ça, entre autres.
Bon, vous m'ouvrez une porte et vous me devancez même. Alors, on va appliquer l'adage. Il faut continuer, malheureusement, dans les circonstances, à tenter de faire du neuf avec du vieux.
Ben, c'est un peu le cas. Puis, on n'aurait pas eu besoin de faire du neuf avec du vieux si on avait eu d'entretien, puis de prévision, puis de moyen et de long terme. On a eu des vues à court terme avec notre très vaste réseau routier qui a été laissé à l'abandon. Et là, ben, on est en mode rattrapage, mais on se rend compte qu'on n'a pas les ressources financières nécessaires pour rattraper ce temps-là qui a été perdu. Le nid de poule, là, le trou dans la chaussée, c'est la dernière étape de l'état de dégradation d'une route. On ne devrait pas se rendre là. Là, on s'est rendu là pour une bonne partie du réseau routier, tant municipal que le réseau qui est sous l'égide du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, tu sais, sans dire qu'il est trop tard et être défaitiste, c'est pas ça le point, mais c'est de dire qu'on n'aurait pas dû se rendre là. Maintenant, on devrait changer la mentalité pour les prochaines années, pour une fois qu'on aura rattrapé le temps perdu, ben entretenir ce qu'on a, puis voilà, repartir là-dessus.
Voilà, c'était Simon Bourassa, le porte-parole du CAA Québec. Il est 16h20.
Lanaudière PM. Santé.
À l'occasion de la semaine de la profession des infirmières, infirmiers qui se tient jusqu'au 16 mai, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec met de l'avant le savoir-faire de ses membres sous le thème « Vos compétences à l'œuvre » et François Morin en a discuté avec le président de l'Ordre, Luc Mathieu.
Alors, Luc Mathieu, du côté de l'Ordre des infirmières et infirmiers, ben on a décidé, à juste titre d'ailleurs, de participer activement et de souligner la semaine des infirmières et infirmiers, du personnel infirmier. C'est important justement de souligner le travail, compte tenu qu'on a peut-être tendance à prendre ces gens-là pour acquis.
Oui, d'une certaine façon. Puis des fois, la population, puis les décideurs font partie de la population, on se rend pas nécessairement compte de toutes les compétences que détiennent les infirmières ou les infirmiers, ce qui fait en sorte que dans les différents milieux de soins, parfois, dans bien des cas, l'organisation du travail ne permet pas aux infirmières d'exercer à leur plein potentiel. Alors, c'est pour ça que le thème de la semaine cette année, c'est vos compétences à l'œuvre. D'une part, pour informer la population de ce à quoi ils sont en mesure de s'attendre d'une infirmière, puis pour nos membres, de leur rappeler que c'est important qu'ils maintiennent leurs compétences à jour, qu'ils s'inscrivent, comme je dis souvent, dans une perspective là, d'être apprenant à vie. C'est pas juste pendant que tu es sur les bancs d'école, là, soit au cégep à l'université, c'est que dès que tu finis, il faut que tu aies une préoccupation de toujours maintenir tes connaissances et développer tes compétences.
Parce que justement, la profession a évolué au fil des ans et le personnel infirmier a davantage justement de responsabilités et même d'actes qu'on peut poser.
Tout à fait. Puis dernièrement, là, avec le projet de loi 15 qui est devenu la loi 8, entre autres, là, on va permettre aux infirmières d'élargir leur droit de prescrire et puis aussi d'augmenter leur capacité de dépistage. Alors ça, c'est pas parce que la loi le permet puis que les règlements qui en découlent, mais comme je disais tantôt, il va falloir que l'organisation des soins et des services dans les différents milieux, là, du domicile jusqu'en CHSLD, ben, permette aux infirmières d'exercer ces nouvelles activités-là.
Bon, ben vous ouvrez une porte à faire un petit peu de politique. Effectivement, au cours des dernières années, on a vu du personnel quitter parce que les conditions de pratique sont pas idéales.
Oui. Il y a les conditions de travail, ça c'est plus dans le mandat là, de la partie syndicale, puis les conditions d'exercice. Les conditions d'exercice, ça rejoint un peu ce que je dis depuis tantôt, c'est de permettre aux infirmières, aux infirmiers d'exercer à leur plein potentiel. Tu sais, je parlais dernièrement avec des gens qui travaillent dans le nord du Québec, les gens disaient, bon, on a un rôle élargi là-bas. Bien, moi, je dis, c'est pas que vous avez un rôle élargi, c'est qu'on vous permet d'exercer, là, de pratiquer en fonction de l'ensemble de vos compétences. C'est pour ça que je dis des fois, il faudrait importer les modèles d'organisation des soins du Nord, les importer dans les régions urbaines puis semi-urbaines, parce que c'est les mêmes patients avec les mêmes problèmes de santé, avec les mêmes infirmières. Alors, pourquoi que dans certains endroits, on permet à des infirmières d'exercer en fonction de l'ensemble de leurs compétences, puis à d'autres, on restreint ça. Alors ça, c'est les milieux de soins qui sont interpellés par rapport à ça.
Dans Lanaudière, comme ailleurs, on vit les mêmes problématiques, dans le fond, au niveau de l'organisation du travail. Il faut quand même essayer de se la jouer de façon positive, c'est-à-dire qu'il y a de l'avenir dans la profession.
Ah, tout à fait. C'est une profession extraordinaire. Là. Puis là, il faut parler pour la paroisse, parce que quand tu es infirmière, tu es infirmier, tu peux garder le titre d'infirmier-infirmier, tu peux faire, oui, bien sûr, souvent au début, on fait de la clinique. Après ça, les gens peuvent continuer à faire de la clinique dans des rôles diversifiés. De plus en plus, là, il y a des rôles en pratique avancée, tu vois, comme infirmière praticienne spécialisée ou comme infirmière clinicienne spécialisée. Puis après ça, tu peux faire de la gestion, tu peux faire de l'enseignement, avec de la recherche. Alors, c'est très diversifié. Tu peux garder le titre d'infirmière-infirmier tout le long de ta carrière, mais être mobile dans les différentes fonctions que tu occupes.
Et sans entrer nécessairement dans les détails, quand je dis qu'il y a de l'avenir dans la profession, c'est qu'en plus, ben, dans la région, on profite d'une certaine formation là, dans le secteur infirmier.
Oui, il y a des maisons de formation là dans les cégeps, puis il y a l'université, il y a des ententes, il y a ce qu'on appelle la passerelle DECBAC là, qui permet aux gens qui finissent de garder au collège de pouvoir continuer de finir leur baccalauréat. Tu sais, dans votre région, là, au 15 mars dernier, vous avez 3166 infirmières. C'est une petite baisse d'1% par rapport à l'année dernière. Puis les gens dans votre région, les infirmières et les infirmiers travaillent presque à 69 % en temps complet. Puis des infirmières praticiennes spécialisées, il y en a 103 dans votre région. Puis ça, c'est une augmentation de 9,5 % par rapport à l'année dernière.
En terminant, quel message on a à livrer justement à la population au regard de la profession?
Ben, c'est d'abord d'essayer de rencontrer, parler avec des infirmières pour voir ce qu'elles peuvent faire, ce à quoi elles peuvent s'attendre d'une infirmière et infirmier. Et puis d'autre part, c'est de mettre en évidence le problème d'accès là, aux soins qu'on a dans le réseau de la santé. Bien, les infirmières et les infirmiers peuvent y contribuer beaucoup avec les autres professionnels de la santé. Comme je le dis souvent, en première ligne, par exemple, il y a longtemps, puis on entend ça encore, là, ça prend absolument un médecin de famille pour tous. Bien, c'est plus nécessairement vrai. Moi, je dis un médecin quand c'est nécessaire, mais pas nécessairement un médecin. Ça peut être une infirmière, une IPS, ça peut être un pharmacien, une travailleuse sociale, un ergothérapeute, un physiothérapeute. Je peux nommer tous les membres de l'équipe interprofessionnelle, mais c'est ce sur quoi il faut travailler là, principalement, je dirais, dans notre réseau de la santé. Et les infirmières peuvent y contribuer de façon significative.
Bon, ben voilà, c'était Luc Mathieu. Il est président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Je vous rappelle que jusqu'à samedi, ben c'est la semaine de la profession infirmière-infirmier.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça devient lent à partir du boulevard du Tricentenaire et ce jusqu'à environ 500 mètres passé le pont d'étagement du CN. Je remarque une certaine lourdeur présentement sur Charles de Gaulle, mais ça semble pas vraiment problématique pour l'instant. Côté Repentigny, 40 Est, ça va bien. 341 montée de l'Épiphanie, là, entre la 40 et la rivière des Mille-Îles, là, c'est assez lourd en ce moment. Le pont Le Gardeur, accès facile par Sherbrooke et Notre-Dame, 25 Nord. Ça devient dense en arrivant du côté de Laval et Salle-Demeure, là, jusqu'au boulevard des Mille-Îles. Secteur de l'île Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, ça va bien. Pont Sophie-Masson, un peu dense à l'approche, mais la traversée est facile. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, ça va relativement bien. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Ah, Marie-Lou! Est-ce que je peux avoir un autographe?
Avec plaisir!
Ici, sur la publicité de l'événement Avantage Hyundai.
À côté de l'offre?
Oui, juste à côté de l'offre de location de l'Elantra Essential 2026 à partir de 72 $ par semaine avec 0 $ d'acompte, incluant le boni du printemps de 1 000 $.
Et la meilleure garantie sur voiture neuve de sa catégorie.
Oui, garantie 5 ans.
OK, donc là, tu veux que je signe l'écran de ton téléphone avec un marqueur permanent?
Oui, juste en dessous du 0 $ comptant.
OK, pas trop.
Location 60 mois au taux de 4,99 %. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partielle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partielle, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Le Théâtre de l'œil ouvert présente L'effet Lisa, un théâtre musical original inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Jenny, le bum, le bon gars, la femme de ménage, l'enraciné du Boomtown Café et l'homme du camp prennent vie en plein cœur d'un feu de forêt, sous le regard tendre et brûlant de Lisa. La lune. D'où vient le tison qui a tout allumé? L'effet Lisa, dès le 10 juillet au Centre culturel Desjardins à Joliette. Billets en vente, l'effetlisa.ca.
C'est la grande vente aïeux chez Super C. Puis les prix ont pogné une méchante débarque. Cette semaine, les spéciaux coulent à flot avec les boissons Oasis 960 ml à 1,22 $. Puis les biscuits Christie format sélectionnés sont à 2,22 $. Sans oublier les cuisses de poulet format écono à 1,95 $ la livre ou 4,30 $ le kilo. Puis pas besoin de capoter, il y en a assez pour tout le monde. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 13 mai en magasin en ligne. Détails au superc.ca.
L'actualité de ce mardi 12 mai en manchette. L'examen de français remis en question dans les cégeps. Un seul maire présent au dernier gala des Excelsior de la Chambre de commerce du Grand Joliette et les pires routes de Lanaudière. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, l'intelligence artificielle qui est mise en cause dans un examen de cégep.
Oui, c'est l'épreuve uniforme de français qui a eu lieu en décembre dernier. Il y a des soupçons de plagiat. Dans une déclaration écrite, le ministère de l'Enseignement supérieur indique que bien que l'épreuve soit rédigée à la main, certains étudiants auraient contourné les règles. On parle de la possibilité de cellulaires camouflés dans des vêtements amples ou encore l'utilisation de lunettes qui intègrent l'IA. Tout est possible, donc. Mathieu Bélanger est enseignant en sciences politiques au Cégep à Terrebonne. Il estime que l'utilisation de l'IA est un enjeu majeur.
C'est l'enjeu principal. Quelle est la valeur d'un diplôme? Quelle est la valeur d'un bulletin? Puis finalement, à qui qu'on doit donner la note? Est-ce que c'est la personne qui, soi-disant, nous a remis le travail ou finalement, il faut évaluer, donner une note à l'intelligence artificielle? C'est un des gros débats de société qu'on a dans le domaine de l'éducation ces temps-ci. Mais effectivement, l'enjeu fondamental, puis ça a toujours été ça avec la tricherie en général, et c'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle.
Ouais, les techniques de triche qui s'affinent au fil des ans. On aura l'occasion d'ailleurs de vous présenter une entrevue dans les prochaines minutes qu'a réalisé notre collègue Marie-Pierre Poulin avec Mathieu Bélanger. Neuf maires, Pierre, qui brillaient, en fait, 9 maires sur 10 qui brillaient par leur absence au gala des Excelsior à la Chambre de commerce.
On peut parler d'un malaise entre les maires de la MRC de Joliette et la Chambre de commerce. Seul le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, a participé au gala, lequel gala, on le sait, vise à honorer les entreprises et les gens d'affaires. Ce dernier a tenu à y assister, mais il affirme avoir spécifié aux dirigeants de la Chambre qu'il n'était pas là à titre de préfet de la MRC.
Je suis allé de mon propre chef comme maire parce qu'il y avait des organismes puis des gens d'affaires honorés lors de la 40e édition. Puis je jugeais qu'au-delà du débat, oui, tout en exprimant une solidarité avec mes collègues, que c'était important d'être présent pour ces gens-là qui ne sont pas impliqués ou qui sont pas responsables là, de ce différent-là entre les deux organisations.
Rien qu'à voir, on voit bien plusieurs routes de Lanaudière qui sont dans un piteux état.
Oui, c'est le fameux palmarès du CAA, le palmarès annuel, qui publie les résultats de sa consultation. Et il n'y a aucune route quand même de Lanaudière qui se retrouve dans le top 10. On pourrait, nous, en trouver ici. Il est vrai que le palmarès est en lien direct avec le taux de participation du sondage. Donc, dans le palmarès régional, on retrouve deux sections de la route 158 à Saint-Ignace de Loyola et à Berthierville. J'y suis passé dimanche, c'est épouvantable. Mm-hmm. La rue principale à Saint-Félix, la 348 à Saint-Didas, arrive ex aequo au troisième rang. La 343 à Sainte-Marceline est quatrième. La côte est à Lanoraie, le rang double à Saint-Lin-Laurentide, le rang York à Saint-Barthélemy et la 138 à Berthierville sont sur un pied d'égalité en cinquième place. On écoute Simon Bourassa, qui est porte-parole du CAA Québec.
C'est ça que ça sert en passant. C'est un genre de défouloir collectif, cette campagne-là. Donc voilà, il y a des nouvelles routes aussi qui ont fait leur apparition dans le palmarès pour Lanaudière, entre autres du côté de Berthierville, à Saint-Barthélemy, Lanoraie aussi, là, la grande côte est qu'on voyait pas nécessairement dans les autres années. Donc, faudra que les autorités de ces villes-là et que le gouvernement provincial jette un œil là-dessus.
On peut poursuivre dans la même veine concernant les routes, les doléances du maire de Joliette qui semble avoir été entendu.
Oui, la 343 sur la fameuse rue Baudry-Nord à Joliette qui est dans un état pitoyable. Il y a eu des travaux la semaine dernière, mais non significatifs. En tout cas, la rumeur est venue aux oreilles du maire de Joliette qu'il y aurait des travaux majeurs. On parle de refaire les assises de cette artère, mais aussi de réaliser un resurfaçage pour éliminer les fameuses roulières. On écoute le maire.
le piétage qui a été fait dans les dernières semaines, là, c'était pathétique, c'était vraiment inadéquat. Donc, nous, je le répète, on va poursuivre les efforts, les démarches, jusqu'à temps qu'on ait des travaux adéquats qui viennent à tout de moins répondre là, aux problématiques actuelles. Puis par la suite, ben ça va passer aussi par un réaménagement de cette route-là. Là. Tout de moins, à court terme, on peut avoir un pavage adéquat, mais déjà là, on va avoir un gain parce que ça n'était pas prévu avant 2029 ou 2030.
Et en terminant, retour des restaurants Dunkin' Donuts au Canada.
On en parlait hier avec Claude.
Oui, c'est complètement curieux.
D'une vidéo phénomène.
J'ai vu un documentaire sur l'histoire des restaurants Dunkin' Donuts de semaine. On en parlait hier. Et là, ça fait de l'actualité aujourd'hui.
Oui, le franchiseur montréalais Food Static vient de conclure un droit de franchisage exclusif avec la société américaine Inspire Brands, qui est propriétaire de Dunkin'. Le fondateur et chef de la direction de Food Static, Peter Mamas, espère ouvrir 600 à 700 restaurants de la chaîne américaine au Canada.
Ça va prendre un petit peu de temps pour trouver des sites, trouver des franchisés qui vont prendre des Dunkin'. D'après moi, d'ici 12 mois, on va ouvrir une Dunkin' par semaine.
Et quand je pense à Dunkin' Donuts, moi, je pense, oui, à la police, mais aussi la magnifique porte-parole des années 80, Claire Pimparé.
Et bonjour, la police. Oui, Claire Pimparé, oui.
Merci, Pierre Bainville.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM. Éducation.
Oui, on en parlait avec Pierre Jubinville. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire est un enjeu majeur. Et cette fois-ci, on parle de son utilisation lors de l'épreuve uniforme de français dans les cégeps à travers le Québec, ce qui remet en cause la valeur du diplôme de certains étudiants et étudiantes. Et Marie-Pierre Poulin s'est penchée sur le sujet avec notre collègue Mathieu Bélanger, enseignant en sciences politiques au cégep à Terrebonne.
Donc, Monsieur Bélanger, c'est pas nouveau qu'il y a ressort dans les nouvelles, surtout par rapport à son utilisation dans les examens, dans tout ce qui est travaux au cégep. Vous, dans votre quotidien, ça ressemble à quoi, en fait, cette utilisation-là de l'IA par les étudiants?
C'est un enjeu majeur, c'est une préoccupation majeure pour les étudiants eux-mêmes aussi, parce qu'ils voient bien l'impact que ça peut avoir, voient bien ce sont des problèmes éthiques en école, mais aussi comment c'est tentant d'utiliser l'intelligence artificielle et ils sont pas toujours au conscient de... Enfin, ils sont souvent conscients des problèmes qu'ils peuvent avoir, par exemple les hallucinations produites par l'intelligence artificielle, mais en même temps, lorsque les étudiants se prennent 3 minutes pour faire les travaux, comme ça toujours été le cas depuis que des étudiants étudient, là, c'est tentant de tenter sa chance, parfois avec l'intelligence artificielle. Concrètement, comment qu'on le voit, c'est surtout tout ce qui concerne les évaluations à la maison. Je suis enseignant en sciences politiques, puis dans mon domaine, ben les travaux à la maison, des travaux de recherche, c'est normal, c'est monnaie courante, tant au collégial qu'à l'université. Puis souvent, c'est à la maison qu'on fait ça. Mais là, avec l'intelligence artificielle, elle est capable de produire des documents très, très rapidement, qui semblent très, très bons, mais parfois, finalement, qu'il y a des hallucinations dedans. Puis évidemment, ça a un impact majeur sur les notions de plagiat aussi à cause de tout ça. Et c'est contraire. Le plagiat a toujours existé, mais par le passé, on pouvait identifier facilement, cette phrase-là, ce paragraphe-là, se le trouver sur tel site Internet ou dans le travail de tel ami. Mais maintenant, par l'intelligence artificielle, je ne pourrais jamais démontrer hors de tout doute à 100% que ça vient d'un endroit ou l'autre, parce que l'intelligence artificielle va reproduire à chaque fois une réponse un peu différente, même si elle a des styles qui reviennent, ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un enjeu de confiance et de méfiance du fait que on va pouvoir détecter ou avoir vraiment, vraiment l'impression que c'est un cas de plagiat. Je ne peux pas le prouver complètement. Et ça a le désavantage aussi que quelqu'un qui a fait un très bon travail, surtout un travail hors norme par rapport à ce qu'il fait normalement, ben là, ça donne l'impression que c'est du plagiat, alors que c'est peut-être pas le cas. Donc, ça soulève là, beaucoup d'enjeux comme ça.
Et ça serait quoi les bonnes solutions pour trouver si ça a été fait avec l'IA ou non, à l'inverse?
Les enseignants ont différentes solutions qu'ils mettent en place pour tenter de pallier ça. Une des solutions qu'on voit souvent, c'est vraiment de basculer des travaux à la maison, sous forme d'examen et autres. Ça a certains avantages, certains inconvénients, notamment que ça bouffe beaucoup de temps. Ce qu'on voit aussi parfois, que les étudiants sont quand même capables de tricher. On voit ça dans l'article de la presse de ce matin, où on fait notamment référence là aux lunettes intelligentes que des personnes peuvent porter pour pour tricher. Notre solution, c'est aussi de parler aux étudiants, donc individuellement, par exemple, explique-moi ton travail. Quand tu me dis telle chose dans ton travail, que veux-tu dire? Explique-moi ta démarche. Comment t'es allé obtenir, comment t'as obtenu telle ou telle information? Prends en photo les références que tu utilises. C'est pas juste me donner la source comme on fait toujours, mais montre-moi sur Internet là, par une capture d'écran où tu as pris cette information-là. Donc, il y a des outils qu'on peut utiliser comme ça, mais qui ont à peu près tous le même défaut de prendre beaucoup, beaucoup de temps et d'entraîner ce climat de suspicion-là aussi. Donc, en plus de la lourdeur de la tâche. Évidemment, on est tous en train de tant les enseignants au cégep, à l'université, les étudiants aussi, les établissements scolaires de façon plus large, on est tous en train de réfléchir à comment gérer ça, l'intelligence artificielle, comment l'intégrer dans nos cours, parce que parfois, c'est quand même utile, et surtout, ben, ça existe, les étudiants vont l'utiliser, donc faut en prendre acte, mais comment s'assurer que le travail qui est fait est bel et bien fait par l'individu qu'on corrige et qu'il a vraiment appris quelque chose, ben, on est dans ces réflexions-là, puis on n'a pas encore ni nous au Cégep à Terrebonne, ni ailleurs dans le réseau, encore trouver les réponses à ces grandes questions-là.
Surtout que là, l'article de la presse, c'était par rapport à l'épreuve d'uniforme français. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça remettait en valeur un peu les diplômes que certains étudiants ont eus. Mais j'imagine que ça s'applique pas juste, si ça s'applique dans n'importe quel examen aussi. Ça pourrait remettre en valeur le diplôme de n'importe quel étudiant, j'imagine.
Exactement, c'est l'enjeu principal. Quelle est la valeur d'un diplôme? Quelle est la valeur d'un bulletin? Puis finalement, à qui qu'on doit donner la note? Est-ce que c'est la personne qui, soi-disant, nous a remis le travail ou finalement, faut évaluer, donner une note à l'intelligence artificielle? C'est un des gros débats de société qu'on a dans le domaine de l'éducation ces temps-ci. Mais effectivement, l'enjeu fondamental, puis ça a toujours été ça avec la tricherie en général, et c'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle, quelle est la valeur d'un diplôme? Parce qu'éventuellement, on veut pas juste un diplôme pour avoir un diplôme. Le diplôme est censé certifier que la personne qui est détentrice du diplôme a acquis certaines compétences, peu importe dans quel domaine on étudie, et soit pour aller dans d'autres étapes après, soit pour aller sur le marché du travail. Ben, évidemment, quelqu'un qui, pour prendre un exemple caricatural, quelqu'un qui a obtenu un diplôme essentiellement en utilisant l'intelligence artificielle, mais un diplôme en médecine, je veux pas que ce soit mon médecin. Ça va me nuire. Mais au même titre, quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle au collégial pour aller dans un programme universitaire, ben, il risque de se ramasser à l'université et de ne pas avoir les compétences pour pouvoir faire ce qui est demandé de cette personne-là. Puis à ce moment-là, ça va être encore pire parce que la session coûte plus cher à l'université. Les conséquences d'un échec sont plus graves qu'au collégial. Évidemment, un étudiant à court terme, c'est normal, ne voit pas nécessairement ça. Souvent, pense beaucoup en termes de tout simplement « je veux réussir mon cours en mettant le moins d'efforts possible ».
Voilà, c'est Marie-Pierre Poulin qui s'entretenait avec notre collègue analyste politique et enseignant au Cégep à Terrebonne, Mathieu Bélanger. Dans un instant avec Jacques Plante, il sera question de Paul Saint-Pierre Plamondon et des espions canadiens.
Le Théâtre de l'œil ouvert présente L'effet Lisa, un théâtre musical original inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Jenny, le bum, le bon gars, la femme de ménage, l'enraciné du Boomtown Café et l'homme du camp prennent vie en plein cœur d'un feu de forêt, sous le regard tendre et brûlant de Lisa, la lune. D'où vient le tison qui a tout allumé? L'effet Lisa, dès le 10 juillet, au Centre culturel Desjardins à Joliette. Billets en vente, l'effetlisa.ca.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 10 mai. Gagne 133 et 33 avec la ligne DB Pierre Beauregard de Saint-Gabriel. Carte achetée au dépanneur Proxy Extra de la rue Saint-Gabriel. Gisèle Beaulieu de Saint-Michel-des-Saints. Carte procurée au dépanneur Proxy Extra. Geneviève Reed de Terrebonne, qui s'est procurée sa carte chanceuse au dépanneur Rondeau de Saint-Zénon. Elle remporte 2 000 $ au jeu de la carte pleine. Marie-André Picard de la Valtrie, grâce à une carte procurée à l'expert dépanneur de Sainte-Marie-Salomé et France-Laurence de Saint-Zénon. Une carte achetée au dépanneur Rondeau. Quant à la deuxième chance, 600 $, elle a fait une heureuse. Francine Dauphinet de Saint-Simon-de-Bagotte, grâce à sa carte achetée au marché du village de Saint-David-Yamaska. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 $ gagnés avec les 3 jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ.
section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5840. Le CA Resto Traiteur, 434 Boulevard Monceau à Joliette.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. C'est l'événement Météo Défi et c'est également le retour du Pathfinder 2026 en concession. Profitez-en pour découvrir pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Passez en concession pour en faire l'essai ou pour voir nos différents modèles 2026. Nous vous attendons au 800 Boulevard Base de Roque à Joliette. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bon mardi, Jacques.
Bon mardi, Claude. J'aurais parodié Bond, James Bond, Plante, Jacques Plante. On fait de l'espionnage aujourd'hui, mon Claude.
Sans avoir de preuves, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui croit qu'il est très possible que lui et des élus du Parti québécois soient espionnés par le gouvernement fédéral là, dans le contexte où il promet de tenir un référendum là, dans un premier mandat.
Aujourd'hui, mis à part de venir te rencontrer, j'étais en congé.
Mm-hmm.
Alors, j'ai évidemment, je suis un abonné à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai suivi un peu la commission des crédits d'une part. Il y avait des points de presse, la période des questions. Et quand est arrivé le point de presse avec M. Plamondon, j'écoutais. Là, il commence à raconter son histoire d'espionnage et tout ça. Et je me suis dit, on n'est pas le 1er avril.
Mm-hmm.
Et... Il était sérieux, là. Je me suis dit, à un moment donné, il va partir à rire, puis il va dire aux journalistes, c'est une blague. Mais non, il était sérieux.
Mais ça a toujours été, c'est-à-dire que le fédéral a toujours eu à l'œil le Parti québécois. Et je crois que c'est la même chose avec ce qui s'en vient comme référendum en Alberta. Le gouvernement fédéral surveille de près ce qui se passe là-bas. Ça va de soi. Et dans le temps...
Est-ce qu'on a des preuves de ça?
Dans le temps du père Trudeau, ben moi, j'en suis convaincu que le fédéral avait un œil là-dessus. Puis, à preuve, l'histoire de Claude Morin qui est décédé le 6 mai dernier, l'ex-ministre péquiste des Affaires intergouvernementales qui avait eu des rencontres avec la GRC. Puis, on ne saura jamais vraiment le fond de l'histoire de tout ça, mais le journaliste Normand Lester qui avait révélé quand même des trucs assez embêtants pour
Et quand on voyait ce Claude monsieur-là Morin, oui. qui était assis à quelques sièges
de René Lévesque.
Tout près de René Lévesque.
Mm-hmm.
Qui aurait cru qu'il aurait été un genre d'espion?
De traître? Moi, j'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, voyant la semaine dernière le décès de Claude Morin, a décidé d'embarquer dans un sujet ouais. un peu semblable.
Bon, d'une part, il le mentionne d'ailleurs dans son point de presse, là, on n'est plus à cette époque-là. Il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués maintenant pour espionner. Mm. Hein, d'une part, ça, il le mentionne. Deuxièmement, si on revient à l'histoire de Claude Morin, moi, je me disais, écoute, sa députation, il n'y a pas beaucoup de députés là, qui siègent, là. Je me sentirais visé en disant, y penses-tu que je peux être un transfuge, là, ou quelqu'un qui donne de l'information?
De qui coule de l'information à la GRC ou au gouvernement canadien?
Il me semble que ça amène pas de la gaieté dans l'équipe, là, tu sais.
Non.
Là, peut-être. Puis si jamais tu vois bâton en disant, hey, boss, ton café était fort le matin, oups, la première poule qui chante, c'est elle qui a pondu.
Il y a des enjeux technologiques. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Maintenant, avec les cellulaires que tout le monde promène partout,
ouais, ouais.
les téléphones intelligents, l'intelligence artificielle et Saint-Pierre Plamondon qui racontait que lorsqu'on se rend compte qu'il y a des réunions importantes avec comme sujet l'indépendance du Québec, entre autres, ben là, tout le monde doit mettre son cellulaire dans ce qu'on appelle là, les pochettes Faraday, c'est-à-dire des pochettes qui bloquent les signaux,
ondes, ouais,
les ondes de,
ouais.
de cellulaire.
Mais ça, Claude, ça devrait être une pratique. On se souvient, avant la campagne électorale, la campagne à la chefferie de la CAQ, là, le ministre Drainville,
mm-hmm.
il a retiré les téléphones cellulaires dans les écoles.
Ouais.
Hein? Quand il y a une présentation, je vais donner un exemple, de budget, que ce soit à Ottawa ou à Québec, là, les journalistes qui sont cloîtrés, jusqu'à 16 heures, on lui enlève tout le matériel.
Oui.
ça devrait être une chose qui devrait être faite de façon tout à fait normale.
Question de sécurité, tout à fait.
Exactement. Ouais. Mais une question aussi de respect. Écoute, à la période de questions, aujourd'hui à 2 heures, là, pendant que les présidents des différentes commissions donnaient un genre de petit rapport avec des amendements, on a très bien vu Mme Geneviève Guilbeault en train de pitonner sur son téléphone.
Ouais.
Et ma réaction...
Dans son cas, c'est irrespectueux. Là.
Ben, je me suis dit pour sa collègue, là, qui est en train de faire son rapport à la présidente de l'Assemblée nationale, en quelque part, au salaire qu'on vous paye, là, vous pouvez au moins rester assis sur vos deux fesses puis écouter les autres. Là. Comme tu viens de dire, c'est une question de pur respect. Alors, dans ce cas-là, moi, je trouve que Plamondon, il va fort, puis, tu sais, le chef péquiste, et là, je vous dis ce qui est sorti ce matin, là, il dit que sa formation n'a pas les moyens de vérifier ce que lui allègue comme propos, mais il laisse savoir qu'il détient de l'information qui n'est pas destinée au public. Où tu t'en vas avec ça, là? Soyons transparents.
Mm.
Si jamais tu as eu de l'information, puis qu'effectivement, il y a quelque chose d'irrégulier, de grâce, sortez-le.
Et là, il invite les journalistes à faire enquête.
Ben oui, mais tu sais, ça me fait penser aussi, là, quand on nous annonce le premier ministre ou un chef de parti, demain à 10 heures, va donner un point de presse, on s'attend à une grosse nouvelle, t'écoutes le bulletin de nouvelles à Radcan à 17 heures le soir, puis ils sortent que ce qui va se passer le lendemain.
Ouais.
C'est-tu de l'espionnage? C'est-tu du coulage? Alors, tu sais, il faut, je pense, moi, je pense qu'avec cette avancée-là de M. Plamondon, c'est que ça va conforter sa base solide avec les... Tu sais, l'ennemi juré, ben c'est les méchants fédéraux.
Oui, oui, oui. Les purs et durs, ça va satisfaire les purs et durs du Parti québécois.
Tu vas consolider ça. Et oui. Est-ce que tu penses d'aller chercher la base aussi ferme du côté de QS?
C'est une bonne question, hein? Ça.
Parce qu'il y en a aussi à QS, là.
Ouais, mais tu parles de souverainistes.
Des purs et durs.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Des purs et durs de gauche aussi, là.
Des
souverainistes aussi. En tout cas, ce sera à suivre, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, qui peut-être, en tout cas, est-ce qu'il a raison de se méfier?
On va voir ce que ça va donner, mais c'est ça. S'il y a eu de l'information, sortez-le.
Hey, bon match ce soir.
Oui, as-tu remarqué, j'avais pas amené mon cellulaire. Fait que ce qu'on a jasé, c'était juste entre nous deux.
Oui, c'est ça.
Bon match ce soir.
Oui, je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville, Mathieu Bélanger, Marie-Pierre Poulin, ainsi que Jacques Plante, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée avec le Canadien de Montréal. Nicolas Bellemare sera là dans un moment pour vous présenter le 5 à 7 trad et la vie dans la Naudière. Vous parle de santé dans les prochaines minutes avec Roselyne Miron-Pichette. Bye bye. Nous, on est là demain, 16h. Ciao.